BFM Radio.
h 27, la suite d'affaires suivantes. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le pôle des affaires non élucidées de Nanterre a célébré ses 2 ans d'existence cette semaine. Un pôle qui représente pour bien des familles un ultime espoir, celui de connaître enfin la vérité sur ce qui est arrivé à leurs proches. Et c'est le cas de Grégory Charlier, dont la mère a été tuée sauvagement le 30 juin 1988. Depuis, il se bat pour que l'enquête avance et il lance un appel aujourd'hui au pôle des affaires non élucidées. Il sera notre invité dans un instant, mais d'abord retour sur la mort de Ghislaine Charlier, un meurtre qui pourrait bien relever d'un mystère encore plus grand, celui des disparus de l'A26. Anne-Solène Tavernier.
La conseillère municipale de 43 ans est très sportive. Ce soir de juin 1988, Ghislaine Charlier quitte son domicile d'un petit village de l'Aisne. Elle sort faire son jogging, une course dont elle ne reviendra jamais. Son cadavre à demi dénudé est retrouvé le lendemain dans un fossé non loin de l'autoroute A26. La première autopsie conclut à un accident de la circulation. Son corps aurait cependant été bougé et retourné selon le légiste. Un corps avec des blessures à la tête et au dos, mais qui ne porte aucune trace d'agression sexuelle. À l'époque, un chauffeur de car scolaire est brièvement soupçonné du meurtre avant d'être mis hors de cause. Sans aucun indice concret, l'enquête piétine, plongeant la famille de Ghislaine Charlier dans le désarroi. En 1993, son mari va jusqu'à s'enchaîner aux grilles du palais de justice.
J'étais ignorée complètement, quoi. Complètement. Moi, je suis une victime. On s'occupe pas de moi. On s'est pas occupé de moi. On n'avait rien à foutre.
Une douleur, ravivée 10 ans plus tard, en juillet 2013, par une lettre anonyme écrite à la main sans faute d'orthographe. Le mystérieux corbeau donne un nom.
Lors de soirée, cet homme prétendait connaître l'assassin de votre défunte épouse. Je vous informe que M. X, domicilié à Ménevray et habitant près de chez vous dans sa jeunesse, a des problèmes avec la justice.
Des accusations, mais pas d'éléments probants. L'affaire Ghislaine Charlier ne sera rouverte qu'en février 2019. Son corps est alors exhumé. La justice a fait le lien avec les disparus de l'A26, 3 autres femmes tuées entre 1985 et 1988, le long d'une autoroute en construction.
Et avec nous, Grégory Charlier, bonjour. Merci beaucoup
bonjour.
D'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fils de Ghislaine, évidemment. Oui. Et je le disais, vous menez ce combat depuis le début. D'abord, parlez-nous de votre maman.
C'était une femme active, très appréciée des gens. Bon, je ne l'ai pas connue longtemps, malheureusement.
Conseillère municipale.
Conseillère municipale dans un petit village de 150 habitants, dans l'Aisne. Donc investie dans la commune, dans les associations, et une très belle mère, quoi.
Une femme sportive.
Oui, elle faisait du sport également, beaucoup de marche, de sport. Donc elle aimait bien s'entretenir. Donc,
c'est malheureusement comme ça que le drame va arriver.
Oui.
Un dimanche soir, c'était le 30 juin 88, elle va faire son jogging.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer?
C'est la chose qu'on aimerait bien savoir, exactement. Donc elle partait sur le chemin rejoindre mon père, qui travaillait donc un peu plus loin. Et malheureusement, elle n'a jamais croisé mon père. Et quand elle est rentrée à la maison, donc... Là, on a commencé à faire des investigations au niveau, à l'époque, des hôpitaux. Savoir s'il n'y avait pas eu d'accident. On avait prévenu la gendarmerie, du fait que c'était une personne majeure, donc il ne pouvait pas faire de recherche à l'époque. Et tout s'est déroulé comme ça. Et le lendemain, donc avec des amis, la famille, on avait retrouvé le corps, quoi.
C'est quoi la configuration de la famille à l'époque? Votre père, vous? Vous avez des frères, des sœurs?
J'ai un frère, oui, qui était parti de la maison depuis très peu à cette époque-là, qui est plus âgé que moi, un peu plus âgé.
Vous avez 17 ans quand votre maman disparaît?
16 ans au moment des
16 ans,
oui. Ouais. 16 ans.
Votre frère est parti déjà?
Voilà, était déjà parti sur la région parisienne, et donc on était à 3.
Et quand vous dites on la cherche avec la famille, il y a des frères, des sœurs, des oncles?
Voilà, les voisins, des amis de la famille qui étaient venus aider. Voilà, donc ensuite on a interrogé, selon le trajet qu'elle avait emprunté, les gens s'ils l'avaient croisé ou vu. Mm-hmm. Et à un moment, entre 2 villages, plus de nouvelles. Et donc, une battue, entre guillemets, a été organisée. Et le corps a été retrouvé le long de la route.
C'est là qu'elle va être retrouvée, partiellement dénudée, oui. Avec des blessures à la tête, des blessures au dos.
Oui.
Pas d'agression sexuelle.
Apparemment, non.
Et c'est là que le mystère commence.
Oui.
Que vont faire les enquêteurs d'abord? Quelle est la piste qu'ils vont d'abord privilégier?
Alors à l'époque, la première autopsie avait décelé un accident de la route. Donc ils étaient partis là-dessus. Et une deuxième autopsie a été faite qui avait décelé que ce n'était pas un accident de la route. Donc à l'époque, on pensait qu'une troisième expertise aurait été faite, ouais. Qui n'a jamais été faite. Donc ils sont partis forcément sur deux sujets différents. Et à l'époque, donc ils étaient plus partis du côté accident de la route, qui était pour moi une chose peu probable à l'époque, malgré mon jeune âge, par rapport au coup, on va dire. Et une personne était très suspectée à l'époque, oui. Donc s'était focalisé dessus, et cette personne-là a plus ou moins, on va dire, dénoncé une autre personne, soi-disant, qui l'a suivie, et c'était une personne avec, à l'époque, une déficience mentale faible, et qui avouait le crime. Et donc, il avait été incarcéré à l'époque, et donc, c'est ce qui a fait stagner l'enquête, avant que l'individu soit libéré, parce que bon, ils se sont rendus compte que c'était pas du tout lui, ils étaient accusés à tort.
Et tout ça a mené les enquêteurs sur des fausses pistes, va faire traîner l'enquête, va faire qu'elle va s'enliser. En 2013, votre père va recevoir une lettre.
Oui.
Une lettre d'un corbeau, expliquez-nous.
Alors c'est une lettre, oui, donc forcément anonyme, qui relate comme quoi la personne connaîtrait l'auteur des faits. On n'a pas eu de suite là-dessus, hein. C'était transmis donc forcément aux forces, ouais, de l'ordre de l'époque. L'enquête a suivi son cours, nous on n'a pas eu de suite par rapport à ça. Donc là-dessus, on était un peu bloqué par rapport à ça. Mais bon, voilà, les langues continuaient quand même à se délier, mais sans savoir si c'était une vérité ou pas.
Est-ce que vous savez si aujourd'hui il reste des scellés ?
Effectivement, oui. Beaucoup de scellés.
Quoi ? Ses vêtements, les, oui, vêtements qu'elle portait, oui, oui, forcément, bien,
oui,
sûr. Ouais.
Oui.
Elle était quoi, en jogging? Elle avait quoi, des baskets?
Non, elle était en short, haut, ouais, débardeur, un kawé, une paire de lunettes de soleil. Et baskets, bien sûr, oui.
Tout ça est récupéré, tout ça a été conservé.
Oui.
Ok.
Effectivement.
C'est autant d'éléments qui vous font dire qu'aujourd'hui, le pôle de Nanterre, donc ce fameux pôle des affaires non élucidées, pourrait reprendre votre dossier?
Oui, alors ça serait pour nous une chose positive pour plusieurs raisons. C'est que la première, dans l'évolution du dossier, actuellement notre juge d'instruction, qui est une très bonne juge d'instruction, oui, au tribunal de Laon, malheureusement nous quitte après ses 10 ans. Et le dossier donc va être transmis à la personne qui le remplacera. Donc on ne sait pas la suite qui peut être donnée. Et on conçoit parfaitement que ce sont des personnes qui ont d'autres affaires à juger, de droit commun ou autre. Donc ils ne peuvent pas se focaliser, oui, dessus. Et le podcast donc, a été créé il y a 2 ans. Permettrait d'avoir un juge d'instruction attitré, des enquêteurs spécialisés que dans le domaine, et qui pourraient peut-être nous faire avancer plus rapidement au niveau de l'enquête et d'avoir un œil neuf.
C'est un appel que vous lancez vraiment à ce pôle. Vous dites aux juges Kéris, aux différents juges, prenez notre affaire en main.
Oui, j'aimerais bien pour ça, pourquoi pas rencontrer le procureur de la République de Nanterre, s'il accepterait de me recevoir pour en dialoguer, et pourquoi pas l'intégrer.
Comment se fait-il que le dossier soit toujours actif, hein, 1988 aujourd'hui ?
Alors, il y a eu des éléments nouveaux qui sont apparus, forcément.
La lettre du corbeau, c'est un élément nouveau ?
Bien sûr, ça fait partie des éléments du corbeau. Et il y a 3 ans, il y a eu l'exhumation qui a été faite. Donc forcément, on a été avisés parce que nous sommes les parties civiles, sans s'y opposer. Malheureusement, on ne pouvait pas s'y opposer, parce que c'est quand même quelque chose de très dur.
C'est violent, oui.
Oui, très violent. Mais on se dit, ils ne font pas ça par hasard.
Après, vous avez une juge qui travaille.
Exactement.
On ne peut pas dire pour une fois que ce n'est pas vrai, mais là, vous avez une juge, ouais, qui travaille, il faut salver son boulot. Elle fait exhumer le corps de votre maman, ça veut dire qu'elle cherche quelque chose,
voilà,
qu'elle a le souci de cette affaire,
voilà,
et il faut salver son boulot, là.
Alors, donc, il y a 3 ans, ça a beaucoup bougé. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, dont on a eu des remontées par Maître Séban, des prises d'ADN, même sur la famille, pour écarter des pistes, des tests ADN. Et pendant 6 mois, ça a énormément bougé. On a eu beaucoup d'espérance qui est de revenir. Et on a eu un flou pendant 18 mois, un trou où, on n'a plus une nouvelle, on n'a plus rien eu. Alors peut-être que la justice a des nouveaux éléments, mais qu'ils ne peuvent pas nous fournir ou des choses. Le problème, c'est que c'est trop en vague.
Là où il y a un espoir que le Paul Colcase puisse reprendre ce dossier, c'est que l'affaire de votre maman pourrait être liée à une affaire, ouais, plus large. Dominique, vous allez nous le raconter. C'est ce qu'on appelle l'affaire de la 26, des disparus, ouais, de la 26. De quoi il s'agit, Dominique ?
Alors, les disparus de la 26, elles sont 4. Hein. Il y a 2 adolescentes et puis 2 femmes plus âgées, dont votre maman, qui ont toutes disparues ou ont été retrouvées mortes dans ce secteur de la 26 qui était en travaux au tout début. Hein. La première, elle s'appelle Sophie Borquet, elle avait 16 ans. Et en mai 85, elle disparaît à la sortie de son lycée. Elle est retrouvée morte dans une forêt à Homblières. 7 mois plus tard, Christelle Houdin, 13 ans, elle est dans le même collège-lycée que Sophie Borquet, elle a 3 ans de moins qu'elle. Elle disparaît novembre 85 et on retrouve son corps justement sur le chantier, le fameux chantier de l'A26. Hein. Et là, il va y avoir tout un imbroglio parce qu'il y aura un non-lieu, puis une instruction qui va être reprise en 90, nouveau non-lieu en 92, des allers-retours, et l'acharnement de l'avocate, Corinne Herman, qui obtient en 2012 des juges qui le relancent l'enquête. Ensuite, en 1988, eh bien, c'est la disparition de votre maman, enfin, le meurtre, pardon, de votre maman, Ghislaine Charlier, 43 ans. Et en 88, au mois d'octobre, Marie-Thérèse Borde, qui est une dame qui a 55 ans, qui est tuée sur une aire d'autoroute de la 26 encore, et son corps porte de nombreux coups violents à la tête, comme portait des coups violents à la tête votre maman lorsqu'on l'a retrouvée.
C'est important parce qu'on sait comment travaille le Paul Colquest en recoupant les éléments et ça permettrait donc peut-être de pouvoir faire qu'il reprenne en charge votre dossier. Pour conclure, il faut peut-être qu'on dise un mot de votre famille, des autres membres de votre famille.
Qu'attendent c'est très dur. C'est très dur pour la famille. Hein. Il n'y a pas une journée où on n'y pense pas. Pour mon père, c'est très compliqué. Il vieillit. C'est très dur, très très dur.
Il espère toujours savoir.
Bien sûr.
Un grand merci. Merci d'avoir eu le courage.
Merci,
c'est important qu'on parle de votre maman et qu'on lance cet appel qui est passé au Paul Colquest pour qu'il s'intéresse à votre affaire et que la vérité puisse venir. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau
Merci.
D'affaires suivantes.